Sud Radio, 10h midi, débat. Arthur Delaborde.
Et bonjour à toutes et à tous. Bonne année, bienvenue pour ce premier débat de 2021, premier débat même de la décennie. Nous sommes avec Jean-Luc Benamias, membre du CESE. Bonjour.
Bonjour.
Laurence Taillade, présidente du Parti Républicain Solidariste et auteur notamment de « Être une femme en 2020 ». Bonjour à vous. Nous sommes aussi avec Georges Kuzmanovic. Coup de gueule à suivre tout à l'heure. Vous êtes le président de la République souveraine. Et Benjamin Lucas, coordinateur national du mouvement Génération. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, dans quelques minutes, nous discuterons de cette nuit de la Saint-Sylvestre sous couvre-feu que nous venons de vivre. Les syndicats de police avaient prévenu que les règles seraient difficiles à faire respecter. Ce fut le cas, hein, notamment avec plusieurs fêtes sauvages. Un couvre-feu qui, en tout cas, va être avancé de 2 heures dans certains départements. Application des 18h à partir de demain. Et nous connaîtrons la liste des territoires concernés tout à l'heure à 13h. Nous reviendrons aussi sur les vœux prononcés hier soir par Emmanuel Macron et sur l'entrée en vigueur du Brexit. Mais tout de suite, on commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule aux uns et aux autres. Et d'abord, peut-être vous, Benjamin Lucas, vous voulez nous parler de cette année 2020, la plus chaude jamais enregistrée selon les relevés de Météo France.
Oui, il y a quelques jours, Météo France nous indiquait que l'année 2020 aura été la plus chaude jamais enregistrée. C'est le plus grand défi auquel a été confrontée l'humanité, qui est celui du dérèglement climatique. On a été capable, et il fallait le faire au moment du début de cette pandémie, de décréter l'état d'urgence sanitaire. On doit être capable en 2021 de décréter l'état d'urgence climatique, de tout penser, de repenser notre modèle économique, de repenser nos politiques publiques à l'aune de cet impératif-là, parce qu'il s'agit de sauver l'humanité du réchauffement aujourd'hui de la planète, et que de ce point de vue-là, les pouvoirs publics, ce gouvernement n'en fait pas assez, voire même recul sur un certain nombre de sujets essentiels. Je crois que ça doit être une obsession, plus qu'une priorité, une obsession en 2021 que de tout faire pour lutter contre le dérèglement climatique. Et les solutions, elles existent, la transition énergétique, la transformation de notre modèle économique, notre modèle agricole, on peut le faire. Il faut là aussi engager, mais comme un effort de guerre, tous les moyens possibles pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, coup de gueule devant l'inaction, la passivité de pouvoirs publics, de dirigeants politiques en France et dans le monde qui voient la catastrophe non pas arriver, mais être déjà présente et qui ne font rien ou pas assez pour y remédier.
Coup de gueule aussi de Georges Kuzmanovic sur cette campagne de vaccination et son inefficacité logistique. C'est ça, on va en reparler d'ailleurs dans quelques minutes.
Oui, c'est ça. Enfin, on va parler du Brexit, il me semble aussi.
Oui.
Il est intéressant de comparer les deux campagnes de vaccination. Plus d'un million de Britanniques ont déjà été vaccinés, à peine quelques centaines en France. Il se profile un problème qui sera un scandale, qui va ressembler à ce qu'a été la difficulté d'avoir des masques dans notre pays. Visiblement, le gouvernement n'a pas tiré les leçons des problèmes d'organisation et logistique du début du confinement, du déconfinement, et ne semble pas prêt pour mener une campagne de vaccination nécessaire pour relancer le pays. Et il y a un risque, c'est que dans 3 mois, les Anglais pourront sortir dans les pubs et retourner au travail, et nous, on sera à nouveau confinés, parce que ce travail n'aura pas été fait. Et je rejoins ce qu'a dit Benjamin Lucas. Vous savez qu'avec le réchauffement climatique se libère potentiellement des virus fossiles, comme on dit, du permafrost. Il serait temps que nous réorganisions totalement le système de santé en France afin qu'il serve rapidement les Français et non pas que ce soit une parodie telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Alors, il y a cette campagne de vaccination dont on va reparler. Il y a aussi ce couvre-feu avancé de 2 heures. Il s'appliquera à partir de demain dans certains départements à partir de 18h. Et c'est là aussi votre coup de gueule, Jean-Luc Benamias.
Ouais, c'est un coup de gueule. Mesure que je trouve totalement inutile, qui se rajoute à les restrictions de liberté un peu partout dans le pays, qui n'a pour moi aucun sens. On joue avec la vie des gens à ce niveau-là. sur la vie au sens propre, hein, pas au sens mortel, au sens propre du terme, c'est-à-dire sur la liberté de circuler. Je ne vois pas en quoi, dans certains départements fermés, enfin tout ça en plus est respecté par 95% des gens qui veulent bien le respecter, et à ce niveau-là, nos concitoyens sont effectivement très très sérieux, mais ça ne gêne pas ceux qui veulent pas, et on ne peut rien faire par rapport à ça. Voilà, je trouve que il faudrait que le gouvernement et le chef de l'État, à un moment donné, arrêtent de prendre des mesures au jour le jour et prennent des mesures sur au moins du moyen terme, 6 mois, 8 mois, et que on arrête de jouer avec tout ça. On attend 13 heures, vous vous rendez compte, pour savoir quels seront les 20 départements. Tout ça n'a pas de sens, aucun sens.
Alors, autre coup de gueule, on a 4 coups de gueule pour commencer cette nouvelle année. Laurence Taillade, c'est sur la pauvreté, c'est 10 millions de pauvres, 300 000 SDF aujourd'hui dans notre pays, des chiffres qui risquent encore de s'alourdir. Hein.
Oui, tout à fait. On a 10 millions de pauvres en France en 2020. C'est une grosse augmentation sur simplement l'année 2020. On a 300 000 SDF dans la rue, et ça, ce sont les chiffres, on va dire, évalués par la Fondation Abbé Pierre. Et on voit bien qu'avec la crise sanitaire qu'on vient de vivre, il y a une crise économique et sociale qui va s'ajouter. Cette crise économique et sociale va mettre très probablement à la rue des centaines de milliers de personnes à partir du mois d'avril si on ne prévoit rien. Et donc, il est important aussi qu'à un moment, le gouvernement prenne conscience que, il va falloir réagir. Il va falloir agir notamment sur peut-être un fonds d'aide d'urgence pour payer les loyers impayés, agir aussi sur la construction de logements sociaux, mais aussi sur le parcours du logement qui aujourd'hui n'est toujours pas une réalité. Et enfin, lever la loi de 2012 sur les habitations légères, puisque cette loi a mis à la rue, même si vivre dans une caravane ou dans un mobil-home, ce n'est pas le top. Eh bien, c'est déjà une solution d'urgence quand on n'a plus d'autres solutions. Et cette loi a mis beaucoup trop de monde à la rue, donc il est temps aussi de lever la loi de 2012 pour pouvoir permettre aux gens au moins de vivre dans des habitations légères.
Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur cette question de la pauvreté?
Jean-Luc
Benavides.
Ces histoires de couvre-feu, d'interdictions successives, ça touche réellement qui? Eh bien, ça touche effectivement les plus pauvres. Je pense à tous ceux qui font des travaux chez des gens, tous ceux qui sont dans l'aide, hein, quelque part, et sur tous les petits boulots, quoi. Et sous ces petits boulots-là, depuis maintenant le début de la pandémie, se sont arrêtés. Et c'est un des énormes problèmes, c'est ce qui fait que ça en grande partie augmenter une part de la pauvreté en France. Et si on continue comme ça, bien sûr, il y a des aides par rapport aux entreprises, par rapport aux entrepreneurs, par rapport aux artisans, aux commerçants. Elles sont utiles. Mais par rapport à tous ces gens-là dont je viens de parler, il n'y a pas d'aide. Et donc, c'est qui aide? Ben, les associations qui s'occupent de la pauvreté, Secours Populaire, Secours Catholique, Emmaüs, j'en passe. Heureusement, il y en a beaucoup. Mais ils sont débordés et ils sont épuisés, je peux vous le dire.
Alors, peut-être Benjamin Lucas, sur cette question-là.
Ouais. Oui, rapidement, je parlais de volonté politique en matière de climat. Il en va de même en matière de dignité et de justice sociale. C'est pourquoi nous proposons, avec Génération et Benoît Hamon, le revenu universel d'existence. Et on voit que dans la crise que nous traversons et que nous avons traversée, il aurait été un filet de sécurité considérable pour éradiquer la pauvreté. On peut, c'est pas une fatalité, on peut en 2021, on peut dans les années qui viennent, dans cette décennie peut être celle de l'éradication de la pauvreté et de la garantie de la dignité avec le revenu universel d'existence. C'est une idée qui progresse et avec nous, elle progressera encore dans l'année qui vient. C'est un engagement que nous prenons très fortement.
Alors, on va se retrouver dans quelques petites secondes pour débattre notamment de ce couvre-feu. A-t-il été respecté lors de la nuit de la Saint-Sylvestre? A priori, pas vraiment, ou en tout cas si globalement, mais il y a eu évidemment des exceptions. Et puis, faut-il l'avancer à 18h, comme en tout cas ça va être le cas à partir de demain? On en parle dans quelques secondes.
Sud Radio, 10h midi, débat. Arthur Delaborde.
Et de retour donc pour ce débat avec Jean-Luc Benamias, Laurence Tayad, Georges Kuzmanovic et Benjamin Lucas. Et on va parler de cette nuit de la Saint-Sylvestre, d'abord sous couvre-feu, avec des difficultés à le faire appliquer, ce couvre-feu. On a notamment ce grand rassemblement, cette rave party, qui serait toujours en cours d'ailleurs, avec plus de 2000 personnes en Bretagne, entre Rennes et Redon. Les forces de l'ordre n'ont pas pu, n'ont pas réussi à dissuader les fêtards de continuer leur soirée de Nouvel An, évidemment. Il y a eu aussi un rassemblement, notamment de 300 personnes à Marseille. Ça, c'est pas vraiment une surprise pour vous, Jean-Luc Benamias. Vous en parliez tout à l'heure de ce couvre-feu qui va être avancé. C'est difficile à faire appliquer une telle mesure.
Mais je l'ai déjà dit sur cette antenne, sur Sud Radio. Ça touche qui, là, ce que vous venez de dire ? Une grande partie de la jeunesse française.
Exactement.
C'est l'objectif affiché, d'ailleurs. Que ce soit, comme en Bretagne, dans une région qui est qui a moins de quartiers populaires. Bon, écoutez, on peut pas interdire tout ça, c'est impossible. Voilà. Surtout, on le voit. Comment voulez-vous que la police intervienne dans une rave party où il y a 2000 personnes ? Ils étaient courageux, les quelques policiers qui y sont allés, courageux, entre guillemets, mais oui. À un moment donné, ça ne sert à rien. Voilà.
Oui, ils ont essuyé des jets de projectiles.
Faut cesser de penser, oui, ben ça c'est très grave. Enfin, c'est pas bien, mais faut cesser de penser que la jeunesse française, mais il n'y a pas que la jeunesse, mais je parle de cela, peut se satisfaire d'une vie confinée à jamais, régulièrement confinée. Ça n'est absolument pas possible. Faut trouver d'autres mesures. Faut trouver d'autres mesures, et on les connaît. Hein, le vaccin en est une, par exemple. Mais faut arrêter de penser que une société peut vivre comme ça. C'est absolument impossible. Voilà, on en a les preuves. Alors, je ne sais pas pourquoi on insiste par rapport à cela. Le gouvernement continue successivement dans un certain désordre, c'est le moins qu'on puisse dire, mais j'ai du mal à comprendre comment tout ça peut perdurer. D'ailleurs, ça ne peut pas perdurer.
Mais on a quand même certains scientifiques qui nous disent qu'en réalité, c'est le couvre-feu à partir du mois d'octobre qui a commencé à faire reculer l'épidémie et que ce n'est pas en réalité le confinement.
On peut voir, je suis les chiffres comme vous tous, les chiffres de ceux qui sont à l'hôpital, les chiffres de ceux qui sont en réanimation, les chiffres du nombre de testés Covid. Tout ça ne me dit pas absolument que le couvre-feu à 18h ou à 18h15 va changer quoi que ce soit à la situation.
Alors peut-être Benjamin Lucas sur cette question du couvre-feu, là encore, est-ce que de prendre pour cible quelque part la jeunesse, puisque c'est essentiellement les jeunes qui sont visés à travers cette mesure, ça peut s'avérer efficace pour freiner cette épidémie ?
Non, mais moi, je peux rejoindre ce que dit Jean-Luc Benamias sur la question de la vigilance vis-à-vis de nos libertés. Il ne faut pas que cette crise sanitaire nous amène à nous résigner et nous amène à accepter finalement que l'exception devienne la règle. En revanche, je crois, là, puisque pour revenir au cas que vous évoquez, je crois que faire une fête à 2000 hier soir, c'est irresponsable. Par ailleurs, condamnation ferme, je pense, de nous tous ici, du caillassage des policiers, ce qui est indigne. Mais vraiment, c'est irresponsable. On vaincra ce virus, oui, c'est pour ça que moi, je souhaite l'accélération de la vaccination, parce qu'en fait, on voit bien qu'il n'y a pas 36 000 solutions aujourd'hui pour s'en sortir. On ne pourra pas mettre le pays sous cloche éternellement. Mais il y a des mesures de prévention sanitaire. Là, ce n'est pas quelqu'un qui passe d'une fête à 6 à une fête à 8 ou à 9. Ce n'est pas une famille qui, pour se réunir, est obligée de dépasser les 6. Ça, évidemment, je ne suis pas pour la répression à outrance. Je suis pour la pédagogie, je suis pour la conviction. Mais voilà, je veux dire simplement à ceux qui ont organisé cet événement, une fête à 2000 en période de crise sanitaire comme on la vit, c'est irresponsable parce que moi je suis de cette génération qui est sans doute pénalisée, mais comme beaucoup d'autres d'ailleurs, hein, puisque la crise sociale pénalise tout le monde, etc. Bon, mais honnêtement, si c'est pour avoir des centaines, des milliers de morts supplémentaires parce que nous sommes irresponsables, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Donc là aussi, faisons attention, soyons vigilants sur nos libertés. Moi, je souhaiterais qu'il y ait plus de débats démocratiques, je souhaiterais que le Parlement soit beaucoup mieux associé, que les collectivités locales soient beaucoup mieux associées aux décisions. Je souhaiterais que le gouvernement soit beaucoup plus au niveau aussi parfois de la crise, mais honnêtement, se réunir à 2000, c'est irresponsable.
Georges Kuzmanovic, même condamnation, on imagine, de votre part sur ces fêtes sauvages et notamment ce grand rassemblement cette nuit en Bretagne.
Oui, ce genre de grands rassemblements, effectivement, ne sont pas très responsables, mais j'ai du mal à jeter l'opprobre sur la jeunesse, qui n'est conforme qu'à la société qu'il a créée. Nous avons une société très largement irresponsable, des gouvernements irresponsables. Le néolibéralisme économique a gagné la bataille culturelle. C'est quand même un peu le jeu de fond, je m'en foutisme et l'abandon de tout ce qui est collectif qui caractérise ces dernières décennies. Donc, il ne faut quand même pas s'étonner. Et puis, les jeunes veulent sortir, c'est le nouvel an, même si, encore une fois, c'est irresponsable. Mais il faut se rendre compte que les mesures prises par ce gouvernement sont des mesures de gouvernement incapables. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont des enfants. Je crois que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, en a, mais ils savent que la plupart des gens vont chercher leurs enfants à 18h à l'école.
Exactement.
On va faire quoi ? Donc, lundi, on sera illégaux à 6h02, 3, 4, 5, quand on ira sortir, chercher, enfin, rentrer du travail, chercher nos enfants et aller prendre du pain à la boulangerie. Mais c'est absurde.
Ah oui, c'est ça. Puisque...
absurde. Et donc, il faut rappeler que depuis le début, les mesures de confinement généralisées, les mesures de couvre-feu sont les dernières préconisées par l'OMS. C'est quand il n'y a pas d'autre choix. Et nous n'avons pas d'autres choix, contrairement à des pays où, effectivement, il y a une plus grande responsabilité des citoyens, mais aussi des moyens pour que l'État agisse. Je pense à certains pays d'Asie du Sud-Est, la Corée du Sud, par exemple, Taïwan, qui n'ont pas toutes nos traditions, mais qui sont quand même des démocraties, et où il n'y a jamais eu de confinement généralisé, où tous les magasins n'ont pas été systématiquement fermés, et où, si je ne me trompe pas, en Corée du Sud, ils sont à quelques 600 morts. En fait, imaginez, chez nous, ça voudrait dire qu'on a eu 700 morts. Il y a des gouvernements compétents et d'autres qui sont parfaitement incompétents.
Alors, dans tous les cas, hein, ce couvre-feu, il va être avancé, on l'a compris, à partir de demain. Dans certains départements, il y en a a priori quelques-uns qui sont sûrs d'être concernés, Meurthe-et-Moselle, Marne, Ardennes, Jura et Hautes-Alpes. Il y en a une quinzaine d'autres qui devraient, eux aussi, être placés sous cette même surveillance. Alors, on a beaucoup parlé des jeunes avec cette nuit de la Saint-Sylvestre, mais il y a évidemment d'autres catégories de la population qui vont être concernées par ce couvre-feu. On a parlé aussi des parents d'élèves qui vont devoir aller chercher leurs enfants à l'école. Et puis, il y a aussi les commerçants. Hein. Ça va être aussi compliqué pour eux dans les zones concernées. Jean-Luc Benamias.
Vous venez de citer les départements extrêmement ruraux. Moi, je veux bien qu'on décide de faire un couvre-feu dans trois quarts de ces villages de France qui concernent 300, 400, 500 habitants, qui sont déjà à 18 heures généralement, ce n'est pas la grande vie. Hein. Donc, vraiment, je redis, ces mesures sont… bon, voilà, alors on prend une décision, on en prendra une autre dans 8 jours. Pendant ce temps-là, on ne continue à ne prendre aucune décision sur la réouverture des lieux culturels, des lieux où des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes peuvent vivre et faire vivre la population. Tout ça, vous m'entendez, hein, je suis atterré. Je m'excuse, Benjamin. On peut dire que c'est irresponsable, évidemment, de se réunir à 2000, mais ces rêves partis, dans ces cas-là, que ce soit sous couvre-feu ou pas, sont toujours relativement irresponsables, entre guillemets. Il faut que la jeunesse de ce pays puisse vivre. Alors, pour les personnes âgées, c'est évident aussi, mais je pense à eux parce que je trouve ça, je le redis, coercitif, atteinte aux libertés publiques fondamentales de manière régulière, et ça, enfin, qui ça intéresse, tout ça, je me le demande. Et à qui ça sert, je me le demande aussi.
Benjamin Lucas, peut-être.
Oui, non, dans ce que dit Jean-Luc, moi, il y a une chose là aussi sur laquelle je pense que ce gouvernement n'est pas à la hauteur. C'est moi, je suis favorable aux mesures sanitaires qui permettent d'endiguer cette pandémie inédite. Bon. Mais le fait d'avoir toutes les semaines des changements de pied, de cap, des informations contradictoires, ça met nos concitoyens à rude épreuve. Parce que ça a été dit, mais quand on ne peut pas s'organiser pour la garde de ses enfants, quand on ne peut pas s'organiser pour son travail, voilà, la fermeture des lieux culturels, culturelle sans véritable concertation, alors que les acteurs du monde culturel avaient mis en place des protocoles qui permettaient de finalement de d'endiguer là aussi l'épidémie, alors qu'on autorise les grandes surfaces, tout ça est illisible, incompréhensible. Moi, j'aimerais, je pense que là, puisqu'on fait appel à la science, qu'on ait une palette de mesures qui soit décidée, débattue collectivement avec les représentants de la nation, au Parlement, après avis des autorités de santé, et qu'on dise, je ne sais pas, par exemple, au-delà de tel seuil, on passe à telle mesure, puis au-delà de tel seuil, on passe à telle mesure, et qu'on n'attende pas la parole présidentielle ou la parole du gouvernement. Qui finalement, qui par ailleurs souvent fait plus de la communication d'ailleurs. Moi, je prendrais l'exemple de l'éducation nationale où vous avez des enseignants, des personnels de direction de l'éducation nationale qui apprennent sur Twitter, sur Facebook les mesures qu'ils vont devoir appliquer dans leurs écoles. C'est vrai depuis le mois de mars. Donc là aussi, on voit une forme de d'impréparation. Même si moi, je reconnais que évidemment, dans cette crise inédite, bien malin celui qui peut dire moi j'aurais tout réussi. Je crois qu'il y a des choses. En tout cas, on n'a pas tiré les enseignements du premier confinement et notamment sur cette question de la préparation, de l'anticipation. Mais on le voit là aujourd'hui avec la vaccination, le retard qu'on prend, il est incompréhensible. On a été en retard sur les, très en retard sur les masques, en retard sur les tests. On prend aujourd'hui du retard sur la vaccination. Tout ça n'aide pas à rassurer nos concitoyens et tout ça n'aide pas à les apaiser dans un moment où, honnêtement, le rôle des gouvernants, il est d'apaiser plus que d'inquiéter.
Laurence Taillade, on ne vous a pas encore entendu sur cette question du couvre-feu avancé. Est-ce que vous êtes là aussi pas vraiment convaincu comme Jean-Luc Bédamias, Georges Kuzmanovic et Benjamin Lucas ?
Moi, je suis atterrée par la façon dont cette crise est gérée, d'autant plus que on entend partout que on doit être en télétravail 5 jours sur 5, que ça doit se généraliser. Or, on se rend bien compte que les transports en commun sont bondés, que les premiers à ne pas respecter cette consigne, ce sont les administrations, puisque on contraint les fonctionnaires à venir travailler. Il y a moins de 35% quand même de télétravail dans la fonction publique, il faut le dire, ce qui est parfaitement inacceptable. Et donc, ce confinement à 18h, c'est quelque chose qui est complètement aberrant. Je n'en vois absolument pas l'intérêt et on attend effectivement toujours un rapport réel et non pas un rapport tel que celui qu'on a vu émaner il y a quelques jours, qui nous démontre quels sont les lieux de contamination et quelle est finalement la logique des mesures qui sont prises, puisque d'un côté, je le rappelle, moi je suis dans une région où on vit notamment du ski et des sports d'hiver. On va interdire d'un côté les remontées mécaniques et donc sacrifier une nouvelle profession. Et de l'autre côté, on va inciter les gens à aller dans le métro en disant qu'il n'y a pas de problème de contamination. Donc il serait temps qu'à un moment, on ait des outils d'aide à la décision qui ne soient pas des outils pour justifier les décisions gouvernementales, qui nous permettraient aussi de faire mieux accepter les décisions par les Français, parce que si aujourd'hui les décisions gouvernementales qui sont prises par une petite poignée de personnes, donc ça pose aussi un problème démocratique, donc si ces décisions-là étaient prises par rapport à des outils qui sont factuels et que tout le monde pourrait consulter, eh bien il y aurait une meilleure adhésion et peut-être qu'on n'aurait pas ces débordements qu'on voit un peu partout. Et je pense que c'est quand même un peu l'appel à la raison qu'il faudrait mettre en avant plutôt que des mesures qui sont totalement coercitives. Et là, je rejoins complètement l'opinion de Jean-Luc Bénignamien sur cette question.
Alors, 11h26 sur Sud Radio, on va se retrouver dans un court instant pour évoquer ses vœux prononcés hier soir par Emmanuel Macron. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, débat. Arthur Delaborde.
Nous sommes toujours avec Jean-Luc Bénamias, Laurence Taillade, Georges Kuzmanovic et Benjamin Lucas. Et on va parler de ces vœux différents. Hein. C'est ce qu'avait promis l'Élysée pour la dernière prise de parole de 2020. Et ça n'a pas manqué, Emmanuel Macron. Depuis son fauteuil près de la cheminée et loin du solennel bureau présidentiel, on va peut-être se concentrer d'ailleurs sur la forme, si vous le voulez bien, dans un premier temps, avec cette énumération très commentée, énumération des prénoms et des professions honorables. Hommage aux Français en première ligne face à cette crise du coronavirus. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Georges Kuzmanovic, peut-être ?
Ces vœux étaient trop longs. Ils avaient pourtant bien commencé. Ils étaient présidentiels. Et puis tout à coup, on est parti dans la justification des mesures gouvernementales. Et ce qui montre bien que ce gouvernement patine principalement face à la crise. Et il est ces vœux ont été l'illustration de ce que nous avons dit précédemment. Nous avons un gouvernement qui incarne ceux qui ont détruit l'État et la sécurité sociale en France pendant des décennies. Emmanuel Macron l'a accéléré avec la destruction de l'hôpital, avec la destruction du Code du travail. Et je rappelle que pendant un an avant la crise du Covid-19, nous avons eu une année de grève des urgences, des personnels hospitaliers demandant plus de moyens, plus de personnel pour soigner les Français. Ces gens-là ne font pas cela. Ces gens-là cassent l'État. Et on a beau dos, quand on écoute les vœux présidentiels, de dire que la France est jacobine. Elle ne l'est pas, justement. Il lui fallut, dans cette crise, avoir une sorte de comité de salut public qui s'occupe des Français. Mais ce n'est pas ce que nous avons, et nous avons quelqu'un qui a justifié ses actions et a salué certains de nos Français, ce qui est légitime. Peut-être aurait-il pu citer les noms et pas de le faire comme on fait dans le management d'entreprise en citant des prénoms, mais en donnant les noms de ceux qui se sont sacrifiés pour nous tous. Ça aurait été un plus bel hommage.
C'est une technique de communication que d'autres avaient déjà utilisée. On pense à Barack Obama ou au président italien Mattarella. Jean-Luc Benamias, ça vous a plu ?
Non. C'est pas le premier discours de président qui ne me plaise pas vraiment ce soir-là. Je suis d'accord avec Georges. C'est une tradition, très bien. Ça pourrait durer 2 minutes 20, 2 minutes 30, avec le salut aux Françaises et aux Français et à ceux qui vivent sur le territoire français. Car ce que j'ai retenu dans ce que j'ai écouté, hein, je ne suis pas resté jusqu'au bout comme d'hab, c'est ce retour, allez, je vais le dire, très maurassien à la France. Régulièrement, on parlait aux Français comme si toutes les autres personnes vivant sur le territoire n'étaient pas les bienvenues sur le territoire. Voilà, je dis ça, mais vraiment, moi, ce genre de discours, il a été moins long que d'habitude, hein, on peut le saluer, mais ça a duré quand même un petit quart d'heure, c'est trop. C'est trop, voilà. Vous voyez bien que, ça ne m'intéresse pas beaucoup.
Voilà. Benjamin Lucas, ça vous intéresse, vous, plus sur la forme
Non, mais dans une grande démocratie, quand le président de la République s'exprime, c'est toujours digne d'intérêt, même quand il lui-même n'est pas intéressant. Non, mais c'est la Ve République et c'est la monarchie présidentielle française. On attend, suspendu, la parole du président de la République, c'est une forme de grand-messe. Bon, c'est une tradition. Moi, j'y suis, comme beaucoup de Français, attaché. J'allume ma télé à 20h pour regarder avant de reprendre les festivités du réveillon. Non, par contre, il a cité beaucoup de prénoms, Marcel, je crois, Gérard, etc. Il a oublié d'en citer un, c'est Emmanuel, parce que pendant qu'il rendait hommage à ses héros, Emmanuel Macron, lui, continuait à fermer des lits d'hôpitaux, continuait à ne pas augmenter le SMIC et les salaires, continuait à mener une politique qui va dans le mur en termes environnementaux. Donc voilà, donc tout ça est de la communication, vous l'avez dit, c'est la forme. Bon, il reprend une recette qui peut être sympathique parce qu'elle permet d'illustrer les situations, mais on n'attend pas du président de la République qu'il illustre des situations, qu'il rende hommage au courage et à la résilience des Français dans cette période de crise, on attend de lui qu'il apporte des solutions et aujourd'hui qu'il protège nos concitoyens devant la crise qui est totale, crise sociale, crise écologique, crise démocratique, perte de confiance, on le voit avec notamment la défiance vis-à-vis des institutions, la défiance vis-à-vis de la science et de la raison parfois aussi. Donc on aurait attendu cela. Moi, je n'étais pas de ce point de vue surpris parce que Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il a un exercice comme celui-ci, on a plus l'impression qu'il regarde un miroir plutôt qu'il ne regarde la caméra et les Français à travers cette caméra. Et donc, il se parle à lui-même, il se congratule de ses propres réussites. Bon, voilà, et on a ça depuis le début du quinquennat, une forme d'immaturité politique, d'incapacité à faire preuve d'humilité dans les crises. Voilà, bon, c'est à côté de la cheminée, et c'est pas dans le bureau, la belle affaire. Mais sur le fond, ça reste le même type de discours auquel nous assistons depuis le début, avec quelques effets de style qui changent, mais rien n'a changé, et ça prouve une chose, c'est qu'en 2021, malgré les discours de 2020 sur le monde nouveau, sur la France d'après, sur le quoi qu'il en coûte, eh bien au final, 2021 sera exactement pareil du point de vue de l'Élysée à 2020.
Alors, on va en venir au fond et notamment à cette campagne de vaccination. Laurence Taillade, un dernier mot peut-être sur la forme.
Ah bah écoutez, enfin, on a quand même eu affaire une fois de plus à un exercice de communication. Emmanuel Macron meuble l'espace médiatique, mais sur les questions de fond qui agitent notre pays, parce qu'on se focalise beaucoup sur ce problème de Covid, qui est évidemment un problème fondamental, mais enfin, on a d'autres soucis aussi dans notre pays, on a d'autres soucis internationaux à régler, il me semble. Or, moi, je n'ai pas entendu parler de la réforme des retraites, dont le texte a quand même été adopté au Sénat en catimini au mois de novembre. Je ne l'ai pas entendu parler de la loi sur les gestions d'urgence sanitaire, qui est peu glorieuse, puisque dans ce texte, on a quand même le Premier ministre qui s'arroge la possibilité de soumettre un certain nombre de nos libertés à la vaccination. Je ne l'ai pas entendu parler de l'islamisme, alors qu'il a cité le nom de Samuel Paty, mais j'aimerais savoir où il en est du traitement de cette question qui est extrêmement grave. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron ? Il a pris les projecteurs, il les a retournés vers des anonymes qui ont certes eu des comportements tout à fait exemplaires, mais en réalité, c'est une technique de communication qui est bien connue. Je ne veux pas qu'on parle de moi, je ne veux pas qu'on parle de mes échecs, même si manifestement, il est dans un satisfacit absolument scandaleux, parce que, comme le disait Benjamin, s'il se regarde dans un miroir, il serait peut-être temps qu'il se regarde de façon réelle dans un miroir, parce que ce n'est pas très glorieux, hein, la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc, finalement, pour moi, c'est un exercice, une fois de plus, qui est très réussi sur le plan de la communication, mais qui est un réel échec sur le plan de l'analyse politique.
Et le président qui s'est notamment défendu face aux attaques récentes à propos de la vaccination. Je ne laisserai personne jouer avec la sûreté et les bonnes conditions dans lesquelles la vaccination doit se faire. Et je ne laisserai pas, pour de mauvaises raisons, des lenteurs injustifiées s'installer. Voilà ce qu'il a dit. Il vous a rassuré, le président Georges Kuzmanovic.
C'est un des moments les plus amusants de son allocution, parce qu'il ne laissera pas. Bon, il a déjà laissé, encore une fois. Les chiffres sont accessibles à tout le monde, ce sont les chiffres officiels, entre autres de l'OMS. Nous sommes à plus de 5 millions, quasi 6 millions de vaccinations dans le monde. Il y a des pays qui vaccinent à très grande vitesse. Encore une fois, la Grande-Bretagne, qui s'est dotée des moyens pour le faire, tant logistique qu'en choisissant l'ensemble des vaccins, c'est-à-dire ceux de Pfizer et ceux de AstraZeneca, à ne pas se limiter. L'Allemagne, également, vaccine moins, mais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que la France. Donc, à part dire qu'il ne laissera pas faire, mais qu'est-ce qu'il ne laissera pas faire, puisque c'est déjà le cas. Donc, oui, c'est assez pathétique. Et en plus, les Français s'en rendent compte. Ce n'est pas comme si on ne s'en rendait pas compte. Donc, je ne sais pas combien de temps il compte tenir avec des effets de manche, avec de la communication politique pure. On ne peut pas faire ça. Or, c'est sa spécialité. Il l'a fait pour les états généraux de l'alimentaire. Ça a un an de discussion qui n'a abouti à rien du tout. Puis, il l'a fait avec les gilets jaunes, des dizaines de milliers de cahiers de doléances qui, je ne sais pas, ont disparu quelque part dans les caves des ministères, personne ne les a lus. Il l'a fait avec le Ségur de la santé, et maintenant il nous fait un Beauvau de la sécurité, blabla, beaucoup de blabla, et très peu d'actions concrètes pour les Français.
Alors on peut lire dans la presse ce matin que ça a été interprété comme un message, un signal envoyé. En tout cas, il a voulu recadrer ses ministres sur la question de la vaccination, et notamment Olivier Véran, Jean-Luc Benamia.
Oui, c'est quelque chose qui ne va pas là-dedans. Il me semble qu'il y a ce fameux Conseil de défense, qui est totalement antidémocratique, qui se réunit régulièrement. Dans ce Conseil de défense, Emmanuel Macron, il a Olivier Véran absolument tous les trois jours en discussion. Comment peut-il dire ce qu'il a dit hier soir en disant « je ne laisserai pas faire ». Enfin, c'est une décision collective qu'ils ont prise. Alors, il y a un côté totalement, là aussi, atterrant sur qui est responsable de quoi. Globalement, comme il a voulu tout prendre, il a pris tous les pouvoirs dans cette monarchie républicaine, eh bien, le seul responsable, c'est lui. Qu'il ne remette pas ça sur le dos d'Olivier Véran. Olivier Véran, on sait, a beaucoup menti dans pas mal de périodes, mais à ce niveau-là, cette décision, à mon avis, sur la vaccination très lente qu'on a en France, elle est collective, elle ne dépend pas que de M. Olivier Véran.
Olivier Véran qui tente de s'expliquer, de dire que ça va monter en puissance. Benjamin Lucas, le président de la République, est-ce qu'il a bien fait d'intervenir, d'envoyer ce signal voilà, pour envoyer le message quelque part selon lequel eh bien, il prenait cette question de la vaccination à cœur et que c'était une de ses priorités en la période actuelle. On sait d'ailleurs que ce n'est pas forcément la volonté de tous les Français. Hein. Il y en a beaucoup qui considèrent que la vaccination n'est pas le meilleur moyen pour sortir de cette crise du Covid.
Mais Emmanuel Macron croit toujours s'en sortir avec des formules. On a eu beaucoup de présidents de la République qui maniaient le verbe, je pense au président Mitterrand, dans des vœux restés célèbres, mais c'était la formule au service de quelque chose, au service d'idées, au service d'action. C'était le verbe pour accompagner l'action. Là, il sent, et ça a été rappelé, il pense qu'il peut se tirer des gilets jaunes avec quelques formules, il pense qu'il peut se tirer du mouvement sur les retraites avec quelques formules, il pense là qu'il peut se tirer d'un certain nombre d'échecs ou d'atermoiements avec quelques formules. Ça ne marche pas comme ça, et Jean-Louis Benamias le disait, on est dans la Ve République et Emmanuel Macron, il a voulu, comme ses prédécesseurs d'ailleurs de ce point de vue-là, il n'échappe pas à la règle, concentrer les pouvoirs, assumer la responsabilité du pouvoir, surtout tout le temps, au point qu'on nous explique qu'il a donc recadré des ministres devant tous les Français dans des vœux. Enfin, où est-on ? D'ailleurs, ça prouve l'absurdité de ce régime. C'est où est-on si le président de la République, en s'adressant à nous, s'adresse en même temps à ses ministres pour leur faire passer des messages. Enfin bon, on nous disait, Macron, vous allez voir, c'est fini l'amateurisme à la Hollande et compagnie. On a quand même toujours beaucoup d'amateurisme de ce point de vue-là, voire même peut-être plus, ce qui paraissait quand même compliqué à l'époque. Bon, non, je crois que là, sur ce sujet-là, c'est pareil. Si on veut qu'il y ait de la confiance, et vous l'avez dit, il y a aujourd'hui beaucoup de fantasmes qui circulent sur les vaccins, etc. Si on veut qu'il y ait de la confiance, si on veut que les choses avancent, il faut non pas de l'emphase, pas des formules, pas des discours, il faut des actions précises. J'en veux pour preuve que dans les pays où ça se passe bien, ce sont aussi des pays où les dirigeants, je pense à Mme Merkel, qui n'est pas du tout une personnalité politique pour laquelle j'éprouve de la sympathie particulière, nous sommes très éloignés. Enfin, quand elle parle aux Allemands, c'est factuel, c'est bref, elle ne se prend pas pour Churchill, pour un Churchill des temps modernes comme Macron essaye de le faire des fois, il n'y a pas des trémolos dans la voix, mais ceux qui regardent savent ce qu'il en est, voient aussi quand il y a des doutes du côté des responsables politiques, parce que c'est normal qu'ils aient des doutes et c'est normal qu'il y ait des ratés dans des périodes comme celle-ci. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ne joue pas un jeu, comment dire, qu'on ne joue pas la transparence et qu'on ne joue pas la sérénité, voilà, et qu'on fasse de la com pour la com sur ce sujet-là. Donc Emmanuel Macron ne s'en tirera pas avec des formules.
Vous êtes d'accord, j'imagine, Laurence Taillade?
Je pense que le problème, c'est qu'on a effectivement une classe politique qui est très, très fortement responsable dans la défiance que les Français éprouvent vis-à-vis non seulement de la classe politique, mais en règle générale maintenant vis-à-vis des sachants, puisque même la parole des médecins, des scientifiques est remise en cause. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a une vraie défiance vis-à-vis de la vaccination. Et aujourd'hui, pour revenir justement dans cette confiance vis-à-vis des politiques et vis-à-vis de la médecine, il est temps que les politiques s'engagent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne serait pas complètement délirant de demander à Olivier Véran d'aller se faire vacciner et de rendre publique cette vaccination, de la même façon que M. Castex, parce que c'est le meilleur moyen de redonner confiance aux Français dans ce vaccin. Et puis, par ailleurs, moi, je m'inquiète du calendrier vaccinal parce que on se rend compte que non seulement il se met très difficilement en place pour une première raison, qui est notre système administratif qui verrouille tout à tous les étages et qui fait qu'on a du mal à distribuer ce vaccin, mais en même temps, pour une deuxième raison, c'est qu'on a confié ce calendrier vaccinal et cette logistique à un médecin. Et quand on est médecin, le métier de médecin, ce n'est pas de faire de la logistique et de distribuer des produits partout sur le territoire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans ce calendrier, on a décidé qu'une certaine classe de la population devrait recevoir le vaccin, alors qu'on a quand même 40% de Français qui sont volontaires pour l'avoir. Moi, je pense que ça aurait dû reposer sur le volontariat, notamment lorsqu'on s'intéresse au Vidal. Donc moi, j'étais consultée le Vidal ce matin pour savoir ce qu'il disait de ce vaccin. Et en l'occurrence, j'ai été très surprise de découvrir que le Vidal nous explique que les tests qui ont été effectués ne démontrent absolument pas que le vaccin protégerait les plus de 65 ans et protégerait contre les formes graves. Donc, à un moment, eh ben, il faut se dire, on vaccine un maximum de personnes, on n'essaye pas de flécher une population pour laquelle on n'a pas prouvé l'efficacité du vaccin, et on y va, parce que l'objectif, c'est d'avoir au moins 50% de la population vaccinée pour obtenir l'immunité collective, et on en est très loin.
Alors, Emmanuel Macron, qui a eu...
Ouais.
Allez-y, je vous en prie.
C'est intéressant ce qui a été dit, mais sur le Vidal, car la lecture du rapport du Vidal sur le vaccin pose vraiment des questions sur ce vaccin. Mais par contre, il y a des articles scientifiques qui ont été publiés sur le vaccin russe et sur le vaccin AstraZeneca qui a été fabriqué avec le vaccin russe. Et encore une fois, le gouvernement où il y a quelques à peine 600 morts pour une population de 50 millions d'habitants qui est la Corée du Sud, a décidé, il y a déjà plusieurs semaines, de fabriquer 150 millions d'unités de ce vaccin-là. Oui. On voit encore une fois que quand on veut, on peut. Et on critique beaucoup la Ve République et cette constitution avec un président monarchique, mais enfin, c'est une monarchie assez faible. Je vous rappelle que nous avons eu, on est vraiment très loin de De Gaulle, non seulement dans le caractère, mais aussi dans les moyens de l'action. Nous avons eu 24 réformes constitutionnelles qui ont transformé cette constitution de la Ve République en une passoire dysfonctionnelle. Et l'ensemble des traités européens qui font que, malheureusement, et ça doit être dit quand même, nos gouvernements ne peuvent pas agir comme, si, d'ailleurs s'ils le voulaient, hein, mais ne peuvent pas agir comme un gouvernement libre et indépendant peut le faire, comme la Corée du Sud, comme la Grande-Bretagne, ou même comme l'Allemagne, qui domine cette Union européenne et qui, elle, a des règles, par exemple, de conservation de ses industries et qui lui donne des moyens d'agir quand il y a une crise, ce que nous n'avons pas. Je rappelle que c'est sous François Hollande qu'avaient été fermés, par exemple, les EPRUS, les établissements de réaction aux urgences sanitaires. Ça aurait été bien utile de les avoir, par exemple. Mais tout cela coûte trop d'argent et il y a des règles européennes à respecter qui font qu'on ne peut pas agir. C'est-à-dire que non seulement on a le problème de l'administration française, mais on a mis le surfromage administratif européen qui paralyse totalement des gouvernants comme Macron qui ne veulent pas en fait réellement gouverner. C'est pour ça qu'il ne fait que de la communication.
Justement, on va parler de l'Europe dans un petit instant, puisque ça y est, c'est officiel, hein, le Brexit entre en vigueur aujourd'hui. Emmanuel Macron, qui l'a d'ailleurs évoqué hein, dans ses vœux, il a dit que le Royaume-Uni resterait un ami et un allié. On se demandera donc dans quelques petites secondes quelle Europe pour demain. On revient dans un court instant.
Sud Radio, 10h midi, débat. Arthur Delaborde.
De retour donc pour ce dernier quart d'heure de débat avec Jean-Luc Benamias, Laurence Taillade, Georges Kuzmanovic et Benjamin Lucas. Et ça y est, hein, après 47 ans de ce mariage parfois tumultueux, hein, le divorce est devenu réalité. Le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne. Les Britanniques ont cessé d'appliquer les règles de l'Union européenne, quittant notamment le marché unique et l'union douanière. Alors c'est un moment historique et on se demande maintenant vers quoi l'Europe peut-elle aller. Qu'est-ce que sera l'Europe de demain? Jean-Luc Benamias, peut-être sur ce sujet.
Voilà. Bon, une chose qui est bien, c'est qu'on a rappelé que les Anglais étaient nos amis. C'est bien.
C'est oui, utile. C'est Emmanuel Macron hier soir dans ses vœux.
Sinon, vraiment. Bon, pour le reste, je crois que cette Europe est à reconstruire telle qu'elle est là. Parce que j'ai bien entendu ce que tu disais, Georges, sur le respect des règles européennes. Mais enfin, il y a un certain nombre de pays qui ne les respectent pas. Je pense à la Hongrie, à la Pologne. Et pourtant, ils sont toujours membres de l'Union européenne, hein, sur les droits humains et sur les droits des femmes, notamment. Bien. Donc, dans ce cadre-là, je pense que la France pourrait taper un peu plus du poing sur la table sur… Je prendrai un exemple qui est l'exemple qui met nos concitoyens à chaque fois dans des énervements extrêmement importants et à juste raison. Les délocalisations à l'intérieur de l'Europe sont tellement une notion des entreprises, hein, totalement incompréhensible. Et pourtant, les règles européennes quasiment l'imposent, c'est-à-dire disent on peut circuler, les entreprises peuvent partir d'un endroit et aller dans un autre endroit de l'Union européenne. Ce genre de mesures sont absolument inacceptables. À un moment donné, et notamment un pays comme la France, devrait taper du poing sur la table. Je pense qu'on en a la force, on en a les moyens, mais on ne le fait pas, parce que on est dans un régime, effectivement, où on accepte ce régime de règlement successif de l'Union européenne, qui, j'ai été 10 ans un député européen, et j'ai soutenu pendant très longtemps cette espèce de construction successive, en se disant, bon, ça va améliorer les choses. Non, ça n'améliore pas les choses, et on ne peut pas faire l'Union européenne avec… un nombre de nos concitoyens, en France, mais dans beaucoup d'autres pays européens, qui trouvent l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui inacceptable.
Et peut-être, est-ce qu'il y a tout simplement un avenir pour cette Union européenne? On a beaucoup parlé il y a 4 ans et demi maintenant, voire même près de 5 ans, au moment où le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Union européenne. On a beaucoup parlé de ce risque d'éclatement, finalement. Benjamin Lucas, c'est toujours l'avenir. Est-ce qu'il faut continuer à garder cette organisation de l'Union européenne?
Moi, je crois qu'il lui faut un projet fédérateur, justement tourné vers l'avenir. Je m'explique et prendre l'exemple de ma génération. Pour mes grands-parents, l'Europe, c'était, après la Seconde Guerre mondiale, le rêve de la paix, l'idéal de la paix à l'intérieur du continent, après deux guerres qui avaient dévasté toutes les familles de ce pays et des autres pays d'ailleurs du continent. Pour la génération de mes parents, l'Europe, c'était une promesse de prospérité économique, l'idée qu'on allait vivre mieux. Pour ma génération, quel est le projet européen? Alors, on nous dit c'est parce qu'on connaît mal l'Europe, mais on la connaît. On a certains d'entre nous qui ont fait des Erasmus, on a sur les ronds-points de nos communes des petits logos de l'Union européenne qui montrent ici ou là les financements sur telle ou telle infrastructure de l'Union européenne. Moi, je suis d'une région, les Hauts-de-France, qui est une région frontalière, donc on peut aller en Belgique, au Luxembourg, avant aujourd'hui au Royaume-Uni. Bon, on pouvait se déplacer, donc l'Europe était une réalité. Nous sommes la génération la plus connectée, la plus informée de l'histoire, grâce aux réseaux sociaux, Internet, etc. Mais aujourd'hui, l'Europe ne représente aucun idéal pour ma génération. Et c'est cela, à mon avis, qu'il faut rebâtir autour, par exemple, de la transition écologique, qui peut être un moteur puissant, parce qu'on sait bien qu'on ne vaincra pas le dérèglement climatique seul dans notre petit coin, que la mer, le niveau de la mer ne va pas monter moins vite dans les pays qui auraient mieux fait par rapport à ceux d'à côté, que c'est une lutte globale et que l'échelle européenne est une échelle pertinente pour mener ce combat-là. Donc je crois qu'on a besoin d'un nouveau rêve européen, d'un nouvel idéal européen. Sinon, effectivement, on assistera à la dislocation de l'Europe et à la montée des nationalismes.
Alors, rebâtir l'idéal, rebâtir le rêve européen, vous êtes d'accord avec ça ? Laurence Taillade, peut-être ?
Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on a plusieurs problèmes avec l'Europe. Le premier problème, c'est qu'on n'a pas été au bout de l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est arrêté à une Europe économique qui, effectivement, représentait un idéal pour la génération de nos parents, qui était l'idéal de se développer économiquement. Mais on voit bien qu'en réalité, cette Europe économique est un destructeur d'emplois pour des pays comme le nôtre. Pourquoi ? Parce que on n'a pas construit l'Europe sociale, on n'a pas construit l'Europe fiscale et on n'a pas une Europe réellement politique et démocratique. Et le problème, c'est que derrière, on n'est pas capable déjà d'affronter la Chine et l'impérialisme américain sur le plan économique parce qu'on n'est pas soudés entre nous et qu'on se fait déjà concurrence entre nous. La destruction industrielle de la France, elle est principalement due à ça. Il faut quand même en avoir conscience. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin effectivement de plus d'Europe, d'une Europe sociale, d'une Europe fiscale pour pouvoir justement harmoniser l'ensemble des politiques et faire en sorte que les pays ne se passent plus de concurrence. Mais je pense qu'aussi, il faut se poser la question de international. Et la façon dont on va se positionner par rapport à une potentielle adhésion de la Turquie au sein de l'Europe, qui pour moi serait une catastrophe. Comment on va gérer aussi la lutte contre l'immigration clandestine, parce que c'est une vraie question, c'est un enjeu très important pour les années à venir. Comment on va lutter aussi avec une Europe de la défense, puisqu'on est incapable de la construire aujourd'hui, et comment on fait une Europe de la culture, puisqu'on est aussi sur la base d'un patrimoine qui est le patrimoine culturel européen qu'on a du mal à défendre aujourd'hui. Donc je pense que les enjeux sont énormes et que pour l'instant, on a malheureusement un chef de gouvernement qui n'est pas à la hauteur pour porter cet enjeu-là, parce que je rappelle que la France fait partie des fondateurs de l'Europe et devrait être à la manœuvre pour avoir une Europe finalement qui est plus humaine.
Alors, Georges Kuzmanovic.
Laurence, Benjamin, tout ça sont des mots. D'abord, moi je pense que, comme vous tous et comme la plupart des Français, attaché à ce qui est le plus important pour nous en politique, c'est la démocratie. Or, à chaque fois que les peuples européens on leur a posé une question sur l'Union européenne par référendum, ils ont toujours voté contre cette Union européenne-là. L'ancien président de la Commission européenne, M. Juncker, disait qu'il ne peut pas y avoir de démocratie contre les traités européens. D'ailleurs, la Commission européenne est choisie et impose sa loi totalement hors du contrôle démocratique des peuples d'Europe, et le Parlement européen a des pouvoirs très, très, très réduits. C'est un problème fondamental. Il faut quand même rendre les honneurs aux Britanniques. On a promis qu'avec ce Brexit, alors tomber les 10 plaies d'Égypte, moi j'attends toujours la montée des fleuves de sang et la chute des sauterelles et des grenouilles, ça ne vient pas. Par contre, il y a une chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont respecté le vote démocratique de leur pays, y compris des gouvernants qui étaient plutôt pour le maintien dans l'Union européenne. Ce que nous n'avons pas fait, et spécifiquement la France. En France, nous avons voté contre le traité constitutionnel européen, largement, ça n'a pas été respecté. les gouvernements de gauche et de droite se sont réunis en conclave sous Sarkozy pour imposer le traité de Lisbonne, qui est, encore une fois, démocratiquement absurde. Il faut qu'il y ait l'ensemble des États qui soient d'accord pour changer une virgule. Bien évidemment, ça n'arrive jamais, même dans une famille avec 5-6 personnes, vous ne pouvez pas mettre d'accord les gens. Alors imaginez 27 États. Et ce que tu disais, Jean-Luc, est tout à fait juste, mais pour les droits humains et pour les droits des femmes, mais la Hongrie peut ne pas obéir à l'Union européenne. Par contre, ce à quoi elle ne peut pas obéir, c'est au carcan économique qui est totalement libéral économiquement. Cette machine-là, ce n'est pas l'Europe. L'Europe, bien évidemment, que nous sommes européens, bien évidemment que les Britanniques sont nos alliés. De toute façon, nous avons tout un tas d'autres accords que l'Union européenne qui organisent la vie de nos États en commun. Par contre, cette Union européenne-là, qui n'est pas l'Europe, mais une Union européenne de traités, et ces traités visent exclusivement à favoriser la finance, les multinationales, au détriment des peuples. Et c'est pour ça, comme ça a été bien dit par Laurence, nous délocalisons, c'est organisé de cette manière-là. Toute cette année était une année catastrophique de ce point de vue-là. Toutes les semaines, nous avions une ou deux entreprises importantes, y compris stratégiquement, qui fermaient pour être délocalisées quelque part, que ce soit en Pologne, en Roumanie, pourquoi pas en Ukraine, voire en Chine ou en Inde. Cette Europe-là ne peut ni protéger, ni organiser une défense européenne, ni une politique industrielle commune, et évidemment pas une politique fiscale, puisque la fraude fiscale est organisée par le Luxembourg, enfin au sein de l'Union européenne, avec le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Irlande. Donc il faut radicalement la casser, et je pense que les Britanniques ont fait le premier pas, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra pas avoir un travail en commun entre la France, la Grande-Bretagne et d'autres pays européens.
Alors merci beaucoup à tous les quatre. On arrive à la fin du temps qui nous était imparti pour ce débat. Vous retrouverez dès lundi, évidemment, Valérie Expert. Eh bien, quant à moi, je vous souhaite encore une fois une très bonne année à tous.